Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance.
14e épisode.
La présidente de l'université avait planté ma soutenance. Mais sa situation était en train de changer.
J'ai fait peser une pression folle sur une doctorante, j'ai enquêté sur les activités de certains de mes professeurs, j'avais pas le choix.
C'était lié à ça, le conseiller de l'Élysée ?
Puis j'ai cédé, j'étais flattée, j'ai accepté de me taire.
Tu savais pour les profs ?
J'ai deviné, je n'ai rien dit. Mais maintenant, c'est moi qui suis dans le collimateur.
Je ne comprends pas.
Le conseiller, il vient de me dire que toute l'opération était une erreur, mais je n'y crois pas une seconde, on me prend pour une conne. Et même si c'était le cas, de toute façon, je serais un témoin gênant. Le plus probable, c'est qu'ils n'ont plus confiance en moi et qu'ils veulent m'éloigner de la suite des opérations. Dans les deux, je suis en danger.
La nuit qui a suivi, je tentais de cuver tous les verres bus pour oublier quand j'ai reçu un coup de fil.
Écoute-moi, je suis dans les emmerdes, mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, tu choisis de t'éteindre.
Mais t'es où ?
Protège-toi, Laura.
Après l'appel de mon père, j'étais restée éveillée, espérant un autre coup de fil. À 4h du matin, j'ai reçu un texto me donnant rendez-vous à 200 mètres de chez moi.
Laura Vanetti ?
Où est mon père ?
Vous le reverrez si vous faites ce que je vous demande.
Où il est ?
Vous allez appeler vos amis du groupe de lecture et leur rendre une petite visite.
Ce sont pas mes amis, je sais pas où ils sont.
Vous vous débrouillez pour les rencontrer et vous m'appelez avec ce portable. En composant le 1. Prenez ça. Ne perdez pas de temps.
Qui êtes-vous ? Vous travaillez pour qui ?
Faites ce que je vous demande.
Qu'est-ce qui me prouve que vous détenez mon père d'abord ? Je veux le voir.
Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit.
Je ferai rien tant que je l'aurai pas vu.
Suivez-moi. Je vous laisse 5 minutes.
Dites au chauffeur de sortir.
C'est pas vrai, une chieuse pareille.
C'est vous qui êtes pressé.
Tu sors fumer une clope.
Comment tu vas ? C'est eux qui t'ont fait ça ?
C'est rien. J'en ai vu d'autres. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, je voulais pas me mêler de tes histoires, mais là, dis-moi ce qui t'arrive. On n'a pas beaucoup de temps.
C'est compliqué. J'ai commencé à m'intéresser à un groupe de gens dont faisait partie mon ancien directeur de thèse. Il a été tué.
Bon. C'était un mec bien ton prof ?
Oui.
Alors, il y a de fortes chances pour que ce groupe se batte pour une bonne cause.
Il prépare une intervention, mais je sais pas exactement laquelle.
C'est étrange comme l'histoire se répète. Moi aussi, j'ai fait partie d'un groupe qui pensait qu'il pouvait changer le monde. En mieux.
De quoi tu parles ? Ça a un rapport avec tes années en prison ?
On devait protéger ceux qui pensaient comme nous. On a récupéré des Italiens, et on s'est fait emmerder par tout le monde. Les flics français, Interpol, le FBI. On a eu besoin de fric. Le braquage, c'était pas le but, c'était le moyen. Mais ils ne m'ont pas loupé au procès. Et encore, ça aurait pu être pire.
Merde. Pourquoi j'apprends ça aujourd'hui ?
Ce que t'as dû subir à cause de moi, y a rien qui le justifie. Mais pour moi, à l'époque, c'était la seule chose à faire.
Papa.
Ce que je voulais te dire au téléphone, c'est d'aller là où tu penses devoir aller. Sinon, tu le regretteras. Ne cède pas à leur chantage. Même s'ils m'utilisent pour faire pression sur toi. Tu dois m'oublier. Tu ne dois penser qu'à ta vie et à tes convictions. Il y a trop peu de gens qui en ont.
Je veux qu'il te relâche.
T'inquiète pas pour moi, je te dis. J'ai rien à perdre. À part toi.
Fin de la récré. J'espère que t'as convaincu ta progéniture de faire ce qu'il faut, Vanetti.
J'espère aussi.
Fais attention à toi.
Allez, dehors.
Vincent avait déserté l'appartement. Mais j'espérais de toutes mes forces qu'il était revenu.
Vincent ! Vincent ! Vincent !
Bonjour, Vincent Deray, laissez un message.
Oui, allô Vincent, c'est Laura. Je sais pas où t'es, il s'est passé quelque chose de grave là. Rappelle-moi tout de suite. J'avais essayé de joindre Kwaranski, en vain. Les derniers préparatifs de l'opération étaient en cours. Agnès veillait sur une vingtaine de hackers qui travaillaient avec les chercheurs.
Ça va. Je lance mes badges. 3 secondes plus tard, bam!
T'es trop fort.
Pas de SLR?
Non.
Ouais, c'est bon. Tu finis sur Bruxelles et on est bon.
Ouais.
Ok.
Ça va.
Vous avez compris?
Ça concerne la repère?
Oui, après l'alerte qu'on a eue hier, on a effacé toutes nos interventions, mais là, c'est bon. On a lancé une nouvelle routine et on a de nouveau nos entrées dans le système.
Niveau de sécurité du groupe ?
Nickel.
Ok, je laisse bosser, je dois retrouver quelqu'un.
Un problème ?
Laura Vanetti a laissé 10 messages pour moi au secrétariat de la fac. Je ne comprends pas, elle a refusé de me parler hier.
On n'a pas le temps de s'occuper de ça.
Elle doit avoir quelque chose à nous dire.
Je croyais qu'elle nous avait vendu à la présidente de votre fac.
C'est ce que je pensais. Mais vu ce qui s'est passé lors de sa soutenance, je pense plutôt qu'elle est de notre côté.
Stop, voilà. On n'en a rien à faire de cette fille. Elle peut nous apporter que des emmerdes.
Luc avait confiance en elle. Je vais la rencontrer. Je dois au moins ça à Luc.
Et si c'était un piège?
Si c'est le cas, il me faudra 5 minutes pour le repérer. Mais je ne veux rien laisser de côté.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Mais le bien est insuffisant. C'est pas à vous que je vais apprendre ça.
Kwaranski m'avait appelé et m'avait donné rendez-vous dans un endroit paumé au sous-sol d'un bâtiment à moitié en travaux. Avant de m'adresser la parole, il m'avait fouillé de la tête aux pieds.
C'est bon, on peut se parler maintenant?
J'avais besoin de m'assurer que vous n'étiez pas équipée.
Je peux m'asseoir?
Vous n'êtes pas prisonnière, que je sache. C'est vous qui avez appelé 10 fois mon secrétariat. Pourquoi?
Vous savez pourquoi j'ai pas eu les félicitations? Parce que j'ai refusé de donner les archives de Luc à Christine Collat. Il y avait trop de choses que je comprenais pas. Je voulais pas qu'on puisse salir sa mémoire sans être sûr de qui il était.
C'est parce que vous avez été son étudiante que j'ai décidé de vous voir aujourd'hui. Pourtant, j'aurais dû vous en vouloir.
De quoi?
D'avoir déblatéré auprès de Christine après votre remarquable prestation à Blainville.
C'est ce que vous croyez?
Je vous pose la question, Laura.
Et moi, je veux savoir qui était vraiment Luc. Un mec bien? Ou un terroriste?
Pourquoi ça vous importe?
J'ai tout parié sur le fait que je croyais en lui. Et pour le moment, j'ai tout perdu. Mon avenir à la fac, mon meilleur ami, tout ce en quoi je croyais.
Luc avait un projet. Il n'était pas un terroriste. En tout cas pas au sens où l'entend la police.
C'est quoi ce projet?
Ils ont quoi comme moyen de pression sur vous, Laura?
De quoi parlez-vous?
Vous êtes ici pour récupérer des informations que vous pourrez échanger contre quelque chose. Ils vous ont envoyé pour ça et ils vous tiennent. Ce que je veux savoir, c'est par quoi.
Delmas avait préféré se déplacer pour annoncer lui-même la mauvaise nouvelle à Boiron.
C'est incompréhensible. Kwaranski a disparu des écrans radars. Même chose pour Razen et une douzaine d'autres professeurs de la fac. Et apparemment, une cinquantaine de profs qu'on surveillait partout sur le territoire se sont aussi volatilisés.
C'est-à-dire volatilisés?
Ils ont disparu physiquement, mais aussi numériquement. Aucune trace par les portables, aucune communication informatique, pas la moindre trace électronique, rien.
Je croyais que c'était impossible.
Ça demande un haut degré de technicité. Sauf à vivre comme au Moyen-Âge, et aujourd'hui, personne ne peut disparaître de la surface du globe s'il est surveillé par nos équipes. Hormis des hackers de très haute volée.
Et donc, tu as échoué.
Donc on met toute notre énergie à rétablir le contact, aussi ténu soit-il. On va y arriver.
Je ne comprends pas ce que c'est que cette opération qui réunit les hackers les plus pointus et des profs d'université, y compris des gens considérés comme des sommités. J'ai cru à l'hypothèse du hold-up, mais ça ne tient pas. Et le chantage. Mais pour quelle cause? Ce ne sont pas des extrémistes politiques. Leur problème, ce n'est pas la démocratie, c'est l'économie. Byron n'était pas un illuminé. J'ai lu un de ses ouvrages, j'ai fait faire des fiches sur ses travaux. Il ne délirait pas. Mais il connaissait le système financier comme personne. Et pas en économiste, mais en sociologue. Il comprenait à quelle logique collective répondent les institutions financières, les banques, le système libéral dans son ensemble. C'est dangereux pour beaucoup de monde, ça. Quelqu'un qui comprend non seulement ce que fait le libéralisme économique, mais aussi comment et pourquoi il le fait. Et la clandestinité, ça nous dit quoi? Ils ne veulent pas risquer d'être arrêtés avant d'avoir fait quelque chose, avant d'avoir lancé quelque chose. Mais quoi, bordel? Quoi? Est-ce qu'ils vont tuer quelqu'un? Un grand patron? Mais pourquoi les hackers, alors? Et qu'est-ce qu'ils veulent?
J'étais toujours dans un sous-sol, en face de Bruno Kwaranski.
Je vous en supplie, je dois sortir mon père de là. J'ai besoin de leur donner quelque chose. Même une petite info.
Je vais faire mieux. Je vais tout vous raconter et vous ne leur donnerez rien.
Mais...
On a mis des années à préparer cette opération avec Luc. On est enfin prêts. Je vais tout vous dire, mais vous ne révélerez rien. C'est à vous de choisir si vous êtes prête ou pas.
Pourquoi cette soudaine confiance? Pourquoi j'irai pas tout raconter?
Parce que je crois que vous venez de me dire la vérité, que votre père est réellement séquestré. Et Luc m'a parlé de vous plusieurs fois. Il avait confiance en vous. Pas seulement dans votre travail, mais aussi dans ce qui vous motivait sur votre sujet. Une fois votre thèse soutenue, il voulait vous proposer de nous rejoindre. Et je crois que vous auriez accepté.
C'est quoi votre projet? J'imagine que vous allez pas prendre les armes.
Erreur. On va prendre d'assaut les données qui président aux décisions politiques de nos gouvernants et servent d'appui à leur politique économique dévastatrice. Et on va mettre cette politique sur pause.
Mais comment?
On va pénétrer numériquement dans les bases de données des agences de notation. On va s'introduire dans les serveurs des banques et des fonds de pension qui détiennent la dette des États et qui prospèrent sur elles. Imaginez un instant que les banques se mettent à vendre massivement de la dette allemande et à acheter de la dette grecque. Vous entrevoyez le mouvement spéculatif qui s'amorcerait? La panique que ça créerait? On va mettre informatiquement à bas les chambres de compensation.
Les chambres de compensation? Ça veut dire que plus aucune transaction ne sera possible?
Entre autres. Vous voyez que votre thèse a un rapport direct avec ce qui nous occupe? Luc le savait bien. Le problème... C'est moins d'entrer dans ces systèmes, on a travaillé avec les meilleurs hackers du monde, que de rendre la spéculation impossible ou absurde sur une durée assez longue. En tout cas assez longue pour que les populations se saisissent de l'occasion de reprendre la main sur leur destin.
Si vous y arrivez,
on va y arriver.
C'était pour ça les fiches de Pyron et toutes ces enquêtes?
Oui. Pour que l'opération réussisse, il fallait que chacun se sente responsable de l'ensemble du groupe. Ça rend le recrutement plus délicat.
Combien de professeurs font partie du groupe?
130, dans tous les domaines. Il fallait qu'on localise dans tous les secteurs les lieux et les moments où la bifurcation s'opère entre un choix juste et un choix unique. La norme comptable qui change tout, le bureau qui sélectionne, l'institution qui sanctionne, etc., etc. Il fallait tout cartographier. Comprendre qui, comprendre où et quand, et surtout comprendre comment on se retrouvait pieds et poings liés dans le seul but d'enrichir une toute petite minorité.
Et vous menez tout ça?
L'intuition première de cette opération revient à Luc. Mais s'il n'avait pas rencontré Agnès, notre hackeuse en chef, rien n'aurait vu le jour. Et je vous l'ai dit, chacun porte l'intégralité de l'opération. Mon seul rôle a été de maintenir la troupe en état de vigilance et d'empêcher les gens de craquer.
Vous aviez raison. Si Luc m'avait demandé de participer, j'aurais dit oui.
Antoine, le mari de Christine, était venu rendre visite à sa femme dans son bureau.
Tu m'amuses, mon chéri. Tu passes à l'improviste, tu voudrais que je chamboule tout mon emploi du temps pour toi.
Viens au moins déjeuner avec moi. Ça, tu peux le faire.
Mais qu'est-ce qui te prend ?
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Antoine, le mari présumé de Christine.
Je crois pas qu'on ait rendez-vous, Vincent, je te verrai après.
Est-ce que tu as vu Laura ?
Non, pas du tout.
Qui est Laura ?
Une des meilleures doctorantes de cette université que votre femme a sacrifiée sur l'autel de... je sais pas quoi, d'ailleurs. L'ambition ? La peur ?
Ça suffit. Et si tu veux conserver ta dernière chance d'obtenir un poste ici, Vincent, tu sors, immédiatement !
Avoir un poste dans une fac dirigée par une intrigante qui sacrifie ses chercheurs et dragouille un flic mandaté par l'Élysée, je peux m'en passer.
Sortez ou c'est moi qui vous sors ?
Je sors. Mais je vous préviens que Laura est en pleine crise et qu'elle pourrait s'en prendre à votre femme.
N'importe quoi.
Et ça serait mérité.
Ce garçon vient de me donner l'argument qui me manquait. Je t'emmène déjeuner de force et tu vas me raconter tout ce qui se passe dans cette fac, d'accord ?
Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est mon lot quotidien. Des professeurs incapables de se contrôler, des doctorants menaçants, des étudiants paumés, des gens immatures, j'en ai ma claque. Et j'ai besoin de calme. De calme. Et c'est tout. Je vais essayer d'être là ce soir pour dîner.
Comme tu veux.
J'étais toujours avec Bruno dans la planque exiguë.
Il me faut un leurre.
On était passé au tutoiement. Je ne sais même pas comment.
Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter qui a l'air d'être une vraie info ?
Tu les sous-estimes. Ils n'achèteront pas les mensonges. Et ils sont équipés pour te faire parler.
Je veux pas leur laisser mon père.
C'est pourtant la seule arme que tu aies.
Quoi ?
De résister. Tu m'as bien dit que tu n'avais plus de famille à part lui. Pas de mec non plus.
Non. J'avais un ami, mais...
Alors, ils ne peuvent rien contre toi. Tant que tu ne leur donnes pas signe de vie, ils sont obligés de t'attendre. Et ils ne feront rien à ton père.
Comment tu peux en être sûr ?
C'est une question de logique. De tradition. Les services français ne tuent pas gratuitement. Ils peuvent se tromper de cible, ils peuvent faire des exemples, mais ils ont besoin de motiver leurs assassinats.
C'est de la théorie. En attendant, ils détiennent mon père.
Vu ce que tu m'as dit de lui, je suis sûr qu'il m'approuverait.
À la cafétéria de l'université, Willy, grand prince, avait invité Vanessa.
Et voilà, sandwich poulet avec la spéciale sauce Bali.
Tu vas m'en dire des nouvelles.
Je savais pas qu'ils faisaient ça.
Attends, sauce barbecue, plus mayo, plus sirop d'érable. Avec ça, le poulet mort a du goût.
Oh.
Allez, goûte.
Mmh. Ouais. Ah ouais, c'est mieux que ce que je pensais.
Alors, c'est qui le chef ? Même Laura, elle a adoré ça.
Je crois pas. Tu l'as fumé dans les sandwichs ?
Quoi ?
Laura ?
Oh,
t'en parles tout le temps ?
Mais forcée, elle a été mon grand amour quand même.
Elle est prof, elle a 28 ans, elle a un appartement. Désolée, mais je suis pas au niveau.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Évidemment que t'es au niveau. Toi aussi, à 28 ans, t'auras un appartement.
Mais jamais tu parleras de moi comme tu parles d'elle.
Tu sais quoi ? Elle, je l'ai jamais embrassée. Alors que toi ?
Moi quoi ?
Toi ? J'ai envie de t'embrasser avant de t'embrasser. J'ai envie de t'embrasser après t'avoir embrassé. Et j'ai toujours très envie, mais alors... très envie de t'embrasser pendant que je t'embrasse. C'est épuisant.
Vincent avait paniqué en découvrant l'état dans lequel j'avais laissé l'appart. Il avait demandé à Alexandre, son ami psychanalyste, de le retrouver à la terrasse d'un café.
Je lui ai laissé 40 messages. J'ai appelé les hôpitaux, les commissariats. J'ai demandé à tout le monde dans le quartier. Je suis passé voir sa directrice de thèse qu'il a plantée. Pas un signe d'elle, rien.
T'as téléphoné à vos amis et aux siens ?
Oui, personne n'a de nouvelles. On dirait qu'une tornade est passée dans l'appart. Il y a des trucs cassés partout. J'ai peur qu'elles soient en train de craquer.
Si elle avait tenté de se faire du mal, elle serait déjà à l'hôpital, ou chez les flics. Et même chose si elle avait agressé quelqu'un.
Donc
elle va refaire surface.
Mais dans quel état ?
Tu ne peux pas la protéger de tout.
C'est mon ami.
Oui, bon.
Non, Alex, pas oui, bon. L'amitié, la véritable amitié, ce n'est pas oui, bon.
Si t'étais sur mon divan, je te marmonnerais un mm-hmm d'une parfaite neutralité. Mais comme t'es en face de moi, je peux me permettre de te le dire. T'es amoureux d'elle.
Non. Et je viens seulement de le comprendre, c'est bien pire que ça. Tu sais aussi bien que moi que par bien des aspects, le monde est insoutenable. Le fait que dans ce monde, il y ait Laura, ça le rend un tout petit peu plus supportable. Y a rien qui puisse égaler ça.
Elle va revenir, Vincent.
J'étais toujours avec Bruno. C'est comme si la planque se resserrait autour de nous.
Et il se passera quoi une fois l'opération lancée ?
Un état de panique, à coup sûr. Mais pas seulement. On ne pourra plus faire marche arrière. Et tout sera remis à plat. Les gens seront obligés de se poser la question de ce qu'ils veulent.
Et toi ? Et les profs ? Les hackers qui sont dans ce projet ? On va vous retrouver ?
C'est possible. Mais pas certain. Et vu le cataclysme qui va se produire, il y aura probablement bien d'autres chats à fouetter.
Tu crois ?
Je m'en fous. Il y a des causes et des idées qui nous dépassent parfois. Ça n'arrive pas souvent, mais si on a la chance de vivre ça, on ne chipote pas en pensant à sa petite personne.
J'ai l'impression d'entendre mon père.
Merci.
C'est pas ce que je voulais dire. Tu lui ressembles pas.
Ça tombe bien parce que si j'avais une fille, tu ne lui ressemblerais pas non plus. Bon, je vais repartir. Je ne sers plus à grand-chose pour les prochaines heures, mais je ne voudrais pas rater le bouquet final. Tu as un matelas et tout ce qu'il faut ici. Et il y a des sanitaires derrière la porte grise.
Je pourrais au moins venir avec toi pour assister à la fin du monde.
Non, il faut que tu restes planqué jusque-là. On se reverra quand on sera passé de l'autre côté.
Avec la chance qui me caractérise, je serai la seule à me faire arrêter.
Pourquoi tu dis ça ?
Ça fait juste trop longtemps qu'il m'est pas arrivé un truc bien.
Cette apocalypse est notre chance, Laura.
Ouais. Peut-être.
Mais... tu sais ce qu'on dit sur les apocalypses ?
Non.
Que juste avant, il faut tout faire une dernière fois.
Pourquoi tu me dis ça ?
Parce qu'à bien y réfléchir, je ne suis pas si pressé que ça.
L'apocalypse est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Morer. 14e épisode. Avec Tiffaine Rabeau-Fournier, Guillaume Marquet, Slimane Niefsa, Hélène Alexandridis, Jean-Claude Durand, Benoît Guibert, Garance Clavel, Anne-Clotilde Rampon, Philippe Pétieux, Jean-Claude Dauphin, Jean-Louis Couloc, Laurent Lederer, François Hatt, Régis Kermorvan, Rosane Biardo, Benoît Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
4 juin. J'essaie de ne jamais penser à ma propre mort. Les gens qui imaginent leur enterrement m'ont toujours semblé d'un narcissisme presque pornographique. Mais si ici j'essaie de maintenir l'horizon d'une vérité, je dois l'avouer. Moi aussi il m'arrive de songer à ma propre disparition. Je l'espère violente et prématurée. C'est intéressant de ne croire en rien quand on pense à la mort. Avant, la vie. Après, rien. Ça a le mérite de la clarté. L'inventaire de ce qui compte, ce n'est pas pour après, pour plus tard, pour divertir les mouches, c'est pour maintenant. Pour saisir maintenant ce qui constitue cet avant. Alors quoi ? Des conversations. Avant les paysages, avant l'amour, avant le sexe, avant même les livres, ce qui s'impose en haut de la liste, ce sont des visages et des mots. Des mains en mouvement pour traduire une percée de la pensée, une idée, un projet. Des tables par dizaines, hautes, basses, rondes, rectangulaires, de cafés, de salons, des bureaux, des comptoirs, et au-dessus d'elles, des paroles. Pas n'importe lesquelles, évidemment. Des paroles qui traduisent quelque chose du monde, qui en font surgir un angle, qui en déniche un secret. Si je me retourne, depuis l'enfance, ce qui me rend ivre d'amour pour la vie, ce sont toujours des conversations.